Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Et au journal de ce jeudi 25 juin, Antoine Samoyo, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous. Les secours sont toujours sans nouvelles du navigateur Laurent Bourgnon, porté et disparu depuis hier midi au large de l'atoll de Toho ou Tuamotu. Ce matin, dès 6h, l'avion Guardian a rejoint l'hélicoptère Dauphin et plusieurs bateaux sur la zone des recherches. Vous entendrez dans ce journal l'interview réalisée par notre partenaire européen d'Yvan Bourgnon, le frère de Laurent Bourgnon. Il arrive en Polynésie pour participer aux recherches et a bon espoir de retrouver vivant le navigateur. Nous parlerons également économie avec Arte Itinui qui réalise une troisième année consécutive en étant bénéficiaire. Fini les temps de disette, la compagnie aérienne du pays est enfin durablement rentable. Enfin, je recevrai ce midi l'ancien footballeur Marama Vahiroa qui organise pas moins de 7 semaines de stage pendant ses prochaines vacances. Et puis nous en profiterons également pour évoquer avec lui les Jeux du Pacifique, c'est dans une semaine.
Et on démarre avec les recherches toujours en cours au large de Toho pour tenter de retrouver le navigateur Laurent Bourgnon.
Le MRCC Papeete a fait le point il y a une heure sur l'état des recherches du navigateur suisse Laurent Bourgnon. Je vous rappelle que ce dernier est porté disparu depuis hier midi au large de l'atoll de Toho au Tuamotu. Laurent Bourgnon qui était en croisière sur son catamaran et qui n'est pas remonté après une plongée en bouteille hier midi. Dès hier, l'hélicoptère Dauphin s'est rendu sur la zone. L'équipage du catamaran de Laurent Bourgnon a commencé les recherches grâce aux deux annexes du bateau. Des recherches qui se sont poursuivis jusqu'à 20h35 avec les moyens de vision nocturne du Dauphin. Et ce matin, l'avion Guardian a été envoyé sur la zone. Plusieurs embarcations ont également été engagées. Deux bateaux de club de plongée, un bateau de la Fédération d'entraîne polynésienne de secours en mer et l'embarcation de secours de l'aéroport de Fakarava. Ceci en plus des deux annexes du bateau de Laurent Bourgnon. La zone des recherches a d'ailleurs été élargie à l'extérieur du lagon de Toho et couvre une superficie de 40 km de long sur 20 km de large.
Et depuis hier, cette information sur la disparition de Laurent Bourgnon a fait le tour des médias nationaux et internationaux.
Il faut dire que le skipper est un des plus grands noms de la voile à l'international. Deux fois vainqueur de la Route du Rhum, il a également remporté la Transat Jacques Vabre en double avec son frère Yvan Bourgnon. Son frère que nos confrères d'Europe 1 ont pu joindre hier et qui affirme qu'il y a toujours de l'espoir. Écoutez.
Bah écoutez, on s'accrochait parce qu'il est encore en vie, parce qu'il est, d'après toutes les infos que j'ai pu réunir sur place, il y a toutes les chances qu'il soit à la dérive. Il était en train de plonger dans la passe avec des courants très violents sortants. Donc voilà, il a dû se faire piéger par les courants. Donc, il y a toutes les chances qu'il soit à la dérive, en pleine mer, avec son gilet gonflé. Voilà, moi ce qui me fait aujourd'hui plus peur, c'est qu'on va peut-être pas le retrouver demain, on va peut-être le retrouver dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Et la déshydratation, elle a peut-être simplement gagner que dans 4 ou 5 jours, parce que vous connaissez Laurent du costaud et il va tenir longtemps. Donc voilà, il faut juste retrouver quoi.
Laurent Bourgnon qui arrivera demain en Polynésie pour participer aux recherches. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, Cédric Valax vient tout juste d'assister au point presse organisé par le MRCC. Il nous a rejoint en studio. Cédric, où en sont les recherches à l'heure actuelle?
Alors, bonjour Antoine. Alors les recherches ont repris ce matin à 6h, donc avec l'hélicoptère Dauphin et le gardien de la marine qui ont survolé et qui survolent encore actuellement la zone. Sur l'eau, donc 6 bateaux sont sur place, dont un de la Fédération Polynésienne de Secours en Mer, vous l'avez dit. 4 plongeurs sont également dans le lagon et sondent la passe. Le point positif, c'est que les conditions météo sont excellentes et que la visibilité est très bonne. Les plongeurs assurent qu'ils arrivent à voir jusqu'à environ 100 mètres de profondeur. Pareil pour les pilotes des appareils, l'avion et l'hélicoptère, donc ils voient très très bien. Alors on en sait un petit peu plus sur les conditions de l'accident. Hein. On sait que Laurent Bourgnon était à bord de son bateau avec des touristes puisqu'il fait du charter. Donc les quatre touristes du bord ont plongé avec le moniteur. Laurent Bourgnon les a accompagnés, puis est parti seul dans son coin à continuer sa plongée. La palanquée est revenue à 9h du matin et c'est à ce retour qu'ils ont constaté l'absence de Laurent Bourgnon et qui ont donc essayé de prévenir les secours assez tardivement puisque, en fait, ils n'arrivaient pas à faire fonctionner le matériel de communication à bord, c'est-à-dire le téléphone satellite et les téléphones portables. Donc ça, sur ces conditions-là, c'est l'enquête de la gendarmerie qui devra définir le pourquoi du comment, pourquoi les équipiers de Laurent Bourgnon n'ont pas su faire fonctionner ce matériel. Et maintenant, le MRCC aimerait adresser un message à tous les plaisanciers qui souhaiteraient participer à ces opérations de recherche. C'est possible, mais par contre, il faut absolument se faire connaître du MRCC en composant le 16, et il faut absolument avoir avec soi des moyens de communication, téléphone satellite de préférence, histoire d'éviter les suraccidents.
Merci Cédric, nous vous tiendrons évidemment informés sur Radio 1 de l'évolution de ces recherches.
Et on poursuit avec un mot d'économie et la compagnie Air Tahiti qui engrange des bénéfices pour la troisième année consécutive.
Fini les années de disette, la compagnie aérienne du pays tient son troisième exercice bénéficiaire. L'Assemblée générale d'Air Tahiti s'est tenue mardi soir en présence des actionnaires de la compagnie et c'est un bilan plus que positif qui a encore une fois été dégagé cette année par le PDG Michel Monvoisin. Alors comment la tendance s'est-elle inversée alors qu'il y a quelques années, Air Tahiti n'avait presque jamais connu les bénéfices? Écoutez les explications du patron d'ATN au micro de Vaite Olaji Pambrin.
On a fait un résultat cette année, un résultat net de 2 milliards 20 millions. C'est un résultat qui nous situe maintenant dans les standards de l'industrie aéronautique, plutôt vers le haut, même on est au niveau des compagnies du Golfe en termes de résultats nets sur le chiffre d'affaires.
Quelles sont les actions que tu as menées ?
C'est le résultat d'une croissance qui a été, d'une amélioration du produit, d'une croissance qui a été tirée vers le haut, puisqu'on a, en tout cas sur l'exercice 2014, il y a eu plus de 9% de croissance du trafic, du nombre de passagers. Et puis bon, c'est la récompense du travail de toute l'équipe.
C'est la conjoncture actuelle qui veut ça ou...
Bah, la conjoncture nous a aidés, bien sûr, puisque bon, il y a eu un peu l'effet carburant. Pas trop, c'est surtout sur 2015 qu'on aura l'effet carburant. Donc c'était surtout la croissance touristique, chez les touristes, on a plus de touristes. ATN transporte 80% des touristes, donc plus de touristes, plus de sièges, plus de recettes, et des charges qui ont été contenues. Donc effectivement, ça s'est transformé en résultat.
Alors à quoi vont servir ces 2 milliards d'excédents? En tout cas pas à faire baisser le prix des billets, ceci à cause de la loi de l'offre et de la demande, selon Michel Monvoisin.
Le résultat de la compagnie, il sert au pays. Donc quand la compagnie va mieux, c'est ce que j'ai, on en a redistribué une partie sous forme de baisse de surcharge carburant. Notre partie du résultat va dans l'investissement quand même, puisqu'on change d'avion. Donc ATN est un instrument de développement touristique, le premier, il joue son jeu, et les résultats vont effectivement servir à soutenir et même promouvoir notre première industrie qui est le tourisme.
Alors comment tu expliques cette différence entre 30 000, allant même jusqu'à 60 000 de différence sur le prix de billet d'avion entre ATN et une autre compagnie de la place?
Le prix du billet d'avion dans une compagnie, il est défini par ce qu'on appelle le yield management. Ils sont fixés en fonction de l'offre et la demande. En haute saison, on paye les billets plus chers parce que c'est vrai que les passagers de haute saison souvent payent la basse saison qui remplit moins. C'est-à-dire pour payer moins cher les billets d'avion, il y a deux choses à faire. Soit on s'y prend très tôt, soit on attend les promotions. Il y en a régulièrement, on en fait régulièrement.
En bref, Radio 1 vous le révélait ce matin en exclusivité. Reynald Temari quitte bien le monde du football pour rejoindre celui du VAA.
Récemment suspendu pour 8 ans par la FIFA de toute activité liée au football, l'ancien directeur de la Fédération Tahitienne de Foot, Reynald Temari, signe son retour sur la scène sportive polynésienne. Mais cette fois-ci, dans le milieu du VAA, Reynald Temari intègre l'organisation des championnats du monde de VAA vitesse qui se dérouleront à Tahiti en 2018. Ce matin, il était présent à la conférence de presse organisée à la mairie de Pirae sur l'organisation de ces championnats du monde de VAA. Il intègre donc effectivement le comité organisateur pour les championnats du monde, mais son poste n'a pas encore été défini.
Radio 1, il est 12h09, on marque une pause dans ce journal.
Radio 1, premier sur l'info.
Et on reprend ce journal avec notre série consacrée au Heiva toute cette semaine.
Le Heiva East Tahiti 2015 qui démarre le 2 juillet prochain, place Toata, pour les 17 groupes de danse et 22 groupes de chant cette année. Alors toute la semaine, Radio 1 vous détaille une épreuve du concours. Et après le chant, on passe aujourd'hui au défi qui attend les orchestres. Alors il faut savoir qu'il existe deux concours pour les musiciens lors du Heiva. Le concours de création et le concours patrimoine, qui pour ce dernier correspond à l'enchaînement de 5 morceaux imposés. Le Tiare Taporo, le Puarata, le Tariaria, le Hit Toto et le Paea. Lors de ces deux épreuves, les musiciens seront notés sur le rythme, l'orchestration et l'expression artistique. Et pour Matani Kainuki, le vice-président du jury du Heiva cette année, tout l'enjeu est d'arriver à prouver sa dextérité.
L'idée, c'est surtout d'écouter un ensemble de musiciens jouer une musique qui appartient au patrimoine. Et le groupe qui gagnerait, ce serait celui qui aura maîtrisé le rythme, qui aura travaillé son orchestration, c'est-à-dire le travail d'un instrument avec un autre, et l'expression artistique, c'est-à-dire est-ce que les musiciens ont prévu des costumes? Est-ce qu'ils ont prévu une petite mise en scène? Est-ce que quand ils jouent, ils ont une certaine personnalité? Mais il ne s'agit pas d'aller devant et de jouer les 5 morceaux imposés et de regarder ses pieds. Non, c'est un concours, donc il faut montrer, et par la personnalité, et par les compétences techniques, et par le travail en équipe, que c'est cohérent et que c'est beau à entendre. Dans la création, ils sont libres d'inventer un nouveau morceau montrant qu'ils ont une maîtrise technique, une dextérité et qu'ils peuvent créer des émotions rien qu'en jouant de la musique.
Matani Kainuki qui était interrogé par Tamara Sentis et demain nous passerons au meilleur costume, si tu le veux bien Alban.
Et on termine ce journal avec notre invité ce midi, Marma Vahirua.
Ancien footballeur professionnel passé par Nantes, Nice, Lorient, Nancy, Monaco et même par la Grèce, Parma Bayeroa transmet aujourd'hui toute son expérience aux jeunes footballeurs du Fénois à travers la détection pour ses anciens clubs pro tout d'abord, mais aussi à travers des stages de perfectionnement pour les plus jeunes. Ce sera d'ailleurs le cas pendant ses vacances avec pas moins de 7 semaines de stage. Marama Fayroua qui est avec nous ce midi en studio. Marama, bonjour.
Bonjour.
Alors, un petit mot tout d'abord pour commencer sur Renal Temali, on en parlait tout à l'heure, qui passe au VAA. Une réaction par rapport à ça?
Surpris à la fois non, parce que c'est vrai qu'il a, il a d'énormes compétences au niveau de l'organisation. On l'a vu hein, avec la Coupe du Monde de Beach Soccer, donc je pense qu'il pourra apporter énormément au VAA.
Et sur sa suspension justement pour 8 ans par la FIFA?
Ah ben alors là, j'ai pratiquement rien à dire à part que voilà, il a été sanctionné et puis un peu comme la vague à la FIFA qui bouleverse un peu notre football aujourd'hui. Moi, pratiquement rien d'autre à dire.
C'est difficile pour l'image du football, mais au niveau local, on n'a pas l'impression que ça se sent beaucoup justement ces scandales à la FIFA.
Non, ça, c'est sûr que directement, non, on va pas être touché, mais bien sûr, hein, mais c'est le football en général qui lui va prendre un sacré coup. Ouais.
Qui en souffre un petit peu. Alors, revenons sur ces stages pendant les vacances. Ces stages, donc, c'est pour quel public, avec quel objectif? Est-ce que c'est de la détection, du perfectionnement?
Alors, mes stages consistent vraiment à repérer les meilleurs jeunes pour justement les former avec le temps. Et en même temps, en gros, c'est de la détection, quoi, et de la formation en même temps. Et je préfère dire que c'est du plaisir, quoi, avant tout.
Alors, il y a un éducateur du football club de Tours qui sera également présent pendant ses stages cet été.
Oui, donc c'est un joueur avec, enfin c'est un ami déjà avec qui j'ai joué à Nantes. On était au centre de formation ensemble. Et aujourd'hui, il a l'équipe de moins de 12 ans du Tours FC. Et donc il forme les jeunes pour devenir professionnels. Et je lui ai demandé il y a un an de venir ici et de repérer et en même temps d'entraîner. Et puis qu'il regarde un peu le niveau parce qu'on en a parlé et il organise beaucoup de voyages avec son équipe et à travers l'Europe et pourquoi pas Tahiti, donc c'est ce que je lui ai dit. Dans un premier temps, il viendra pour montrer aux enfants faire évoluer les entraînements et tout ce qu'il fait déjà en France, donc ça peut être un point positif pour nos enfants d'ici.
Et ça peut déboucher éventuellement sur une détection d'un enfant de 12 ans qui intégrerait justement l'équipe de Tours ou pas?
Ah mais complètement, c'est un peu le but aussi hein. J'ai vu que Vénus avait organisé ça, donc c'est exactement ce que je compte faire et on peut faire une pierre de coup. Et en même temps, je lui ai demandé d'organiser lors de sa semaine de stage avec nous, d'organiser une formation sur la base du volontariat, on va dire, hein, au niveau des éducateurs tahitiens. Donc voilà, je lance l'invitation à tous les éducateurs, tous les passionnés, les amoureux du foot comme nous, à nous rejoindre le lundi 20 juillet au 24, toute la semaine sur le terrain de l'AS Aureil. De 8h à 16h et vraiment j'invite tous ceux qui le désirent à venir nous rejoindre pour une partie de plaisir pendant une semaine.
Alors pour les stages, pour les enfants, ça se passe où et quand? Alors c'est ouvert, c'est assez large, hein. Il y a les 5-6 ans et puis il y a les 7-17 ans, c'est ça?
Exactement, en fait on fait les bambinos, c'est vraiment pour leur donner le goût au football et pour s'amuser, pour vraiment qu'ils aient ça dans le sang.
Donc pour les bambinos, ça va se passer quand?
C'est tous les matins. La même chose que...
À partir de quelle date?
Alors, on commence lundi prochain à Montréal, d'accord, justement. Et on enchaîne 7 semaines de stage. Donc, la semaine prochaine, on est toute la semaine à Montréal. Et toutes les autres semaines sur le terrain de l'AS Aureil, à Papeete.
Et pour les donc plus anciens, c'est 7-17 ans, on le disait. Voilà. Même programme, même endroit.
Exactement, même programme, même endroit pour tout le monde. Hein. Donc, pour plus d'informations, j'invite tout le monde à aller sur mon site internet que je viens de terminer, www.vahiruamarama.com.
Très bien. Et là, on peut retrouver comment s'inscrire. Donc, justement, il y a un numéro de téléphone.
Il y a tout, il y aura tout dessus. Donc, allez sur mon site internet et au pire sur ma page Facebook où je vous répondrai directement.
Vahiruamarama.com, c'est ça.
Voilà.
Parlons un peu des Jeux du Pacifique pour finir. Ça se passe du 4 au 18 juillet. Toi, tu connais bien la sélection tahitienne de football. Est-ce que tu penses qu'elle a ses chances de médaille?
Ben avant tout, je suis triste de ne pas pouvoir y participer parce que ça a été un de mes objectifs en revenant au Fénois. Gagner une médaille d'or aux Jeux du Pacifique avec mon pays, c'était vraiment pour moi un objectif réel. Et aujourd'hui, on me dit non, c'est les jeunes. Aïe. Bon, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'ils ont un réel potentiel vu ce qu'ils ont montré ces dernières années, dernières saisons. Je connais la plupart d'entre eux qui ont évolué avec moi à Pirée. Et je pense qu'ils ont de très grandes chances. Mais attention aux Calédoniens, enfin. Voilà, comme d'habitude,
Les grandes équipes à redouter au niveau football dans le Pacifique, c'est les Calédoniens surtout?
Oui, je pense que oui, voilà, les Calédoniens et peut-être les Salomonais. Mais bon, voilà, pour moi, Tahiti est le favori.
On l'espère aussi, en tout cas. La jeune garde, toi, tu la connais, du coup, tu fais de la détection, elle est prometteuse pour le football polynésien?
Oui, mais le seul souci qu'on a ici, c'est que il faut aller très vite avec eux, parce que voilà, ils sont fin d'adolescence, les copines, après la fête, donc faut saisir le bon moment pour ces jeunes pour pouvoir leur montrer, leur ouvrir d'autres portes vers l'Europe.
Par les stages et par la détection, comme tu le fais. Merci beaucoup, en tout cas, Marama, d'être venu sur notre plateau ce midi. On rappelle donc que tes stages pour les éducateurs, c'est donc du 20 au 24 juillet. Et puis pour les stages pour les enfants, il suffit d'aller donc sur ton site www.vailuamarama.com.
Voilà, merci beaucoup à toi.
Merci à toi.